Vous écoutez, on lit pour vous.
Tout tremblement n'est pas la maladie de Parkinson, un texte de Catherine Anfield, paru le 20 octobre 2024 dans la presse. La maladie de Parkinson est une maladie du cerveau dégénérative qui entraîne des problèmes moteurs. Et dans l'imaginaire collectif, c'est la première maladie à laquelle on pense lorsqu'on voit une main trembler. Mais tout tremblement n'est pas la maladie de Parkinson, indique d'emblée le docteur Ariel Lévy, neurologue spécialiste en troubles du mouvement et professeur adjoint de clinique à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Quand le docteur Lévy commence une consultation, il regarde toujours la liste des médicaments du patient présents et passés. Certains médicaments, les pompes de Ventolin pour l'asthme, par exemple, peuvent provoquer des tremblements. Les tremblements peuvent aussi être associés à des problèmes métaboliques, comme l'hyperthyroïdie. En fait, la plupart des tremblements sont des tremblements médicamenteux ou métaboliques, explique-t-il. Il faut aussi savoir départager la maladie de Parkinson du tremblement essentiel, une maladie neurologique fréquente chez les personnes âgées, handicapante pour certains, mais pas dangereuse. Autre point important, ce n'est pas le tremblement qui définit la maladie de Parkinson, mais plutôt la lenteur des mouvements. C'est une lenteur bien caractéristique qu'on reconnaît à l'examen physique, précise Ariel Lévy. Sans cette lenteur anormale, grosso modo, on ne peut pas faire de diagnostic de maladie de Parkinson. Quant au tremblement, deux caractéristiques font suspecter la maladie de Parkinson. D'abord, l'asymétrie. En général, un côté du corps, le gauche ou le droit, est plus affecté que l'autre, tant pour la lenteur que pour le tremblement. Deuxièmement, dans la maladie de Parkinson, les tremblements apparaissent lorsque le patient est complètement au repos, en regardant la télévision par exemple, et disparaissent lorsque le patient commence à bouger, indique le docteur Lévy. En comparaison, le tremblement essentiel est un tremblement relativement symétrique et c'est aussi un tremblement de posture. On le voit apparaître lorsque le patient met ses bras dans les airs ou prend quelque chose et la porte vers une cible, comme un verre vers sa bouche ou un stylo vers un papier, illustre le neurologue. Le médecin peut prescrire un traitement lorsque le tremblement essentiel diminue la qualité de vie du patient. Chez certaines personnes atteintes de la maladie de Parkinson, peut-on quand même observer un tremblement lorsqu'elles saisissent un objet? Oui, mais c'est un tremblement un peu différent qui ne définit pas le tremblement parkinsonien, répond le docteur Ariel Lévy. C'est mineur, et on le voit tardivement dans la maladie. Ce n'est pas vraiment une considération dans le contexte de diagnostic. Encore aujourd'hui, le diagnostic de la maladie de Parkinson est clinique. Il repose sur l'examen physique, l'histoire et l'exclusion d'autres maladies. Parfois, le diagnostic se fait rapidement et d'autres fois, au terme de plusieurs rendez-vous médicaux. Il n'existe pas encore de test unique pour diagnostiquer la maladie de Parkinson, mais des chercheurs y travaillent. C'est là qu'on s'en va, probablement avec des ponctions lombaires ou des prises de sang, prévoit Ariel Lévy. Tout tremblement n'est pas la maladie de Parkinson, un texte de Catherine Anfield, paru le 20 octobre 2024 dans la presse.
Solange Muzangagna et Carlos Idibuo, des inspirations et des modèles. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue. Récipiendaire du prix Engagement lors du gala de la Fondation Émergence le 17 octobre dernier, Solange Muzanganya et Carlos ne cessent, depuis 25 ans, d'arpenter différents pays d'Afrique pour porter les voix d'ESLGBTQ, tout comme ils ont contribué à l'intégration des personnes LGBTQ venant d'Afrique et des Caraïbes dans nos communautés à Toronto et à Montréal. Plusieurs les connaissent à Montréal, car ils ont été d'Arc-en-Ciel d'Afrique et de Massimadi avant que l'organisme concentre ses activités sur le Festival du cinéma du même nom aujourd'hui. Ce prix engagement est un hommage à 25 ans d'engagement, de persévérance, d'épreuve, mais aussi de joie, d'humour, à la recherche d'un sourire sur le visage de tous, non? Carlos Idibuo. Je suis d'origine ivoirienne et de nationalité canadienne. J'ai vécu 16 ans entre Montréal et Toronto, et aujourd'hui je suis basé à Abidjan, on peut dire à temps plein maintenant, mais je reviens souvent à Montréal. Du point de vue du travail, je touche à un peu de tout, mais la protection des droits des personnes LGBT reste au centre de mon activité et tout ce que je fais gravite dans le même sens, avec des conférences et des formations sur la santé sexuelle, sur les droits des personnes LGBTQ, sur les questions d'équité, de diversité et d'inclusion. J'essaie aussi de développer des partenariats Nord-Sud, même si je n'aime pas beaucoup le mot, et je voyage beaucoup pour faire avancer ces partenariats. Solange Muzanganya. Mon rêve, ce serait de devenir femme au foyer. Rire. Ma façon aujourd'hui d'être engagée est d'écrire des livres. Je me définis comme autrice. J'ai écrit 8 livres, dont 2 ont été publiés par une maison d'édition généraliste. Je continue à me définir comme une activiste, une militante. C'est la façon qui est différente. Avec les livres, c'est pour moi aller chercher d'autres personnes qui ne sont pas encore sorties du placard, qui veulent comprendre, qui veulent lire sur le sujet, qui veulent se connaître aussi. Malheureusement, en Afrique, il n'y a pas d'écrit sur l'homosexualité, ou très peu. Je pense qu'il est important de lire des histoires qui nous ressemblent, qui se passent chez nous, et d'aider certains et certaines à faire le premier pas vers l'acceptation. Je pense aussi toucher des personnes qui ne se déplaceraient jamais pour entendre une conférence sur l'homosexualité ou la transidentité. Il faut être déjà sorti du placard, ne plus être gêné de se montrer. L'un des derniers romans publiés aborde clairement l'érotisme transgenre et c'est comme une victoire pour moi qu'il ait été publié. Le livre, on peut se cacher dans sa chambre pour le lire et peut-être avoir des réponses à ses questionnements. Je mets l'accent sur l'érotisme parce que c'est universel. Peu importe notre genre, notre orientation sexuelle, tout le monde peut s'y reconnaître, même si on est hétérosexuel. Rire. Et cela me permet aussi de glisser d'autres messages comme sur la santé, la sécurité, le travail du sexe, l'acceptation par la famille, etc. Et l'érotisme n'est qu'un moyen de capter l'attention. Mais aussi parce que les organismes de défense des droits ou qui font la promotion de la diversité vont parler de tout sauf de sexe. Sans compter que les mêmes organismes peuvent perdre les gens en avançant des concepts tentant de définir, par exemple, le transgenrisme, la transidentité, ce qu'est être queer, qui peuvent être différents en Afrique. Cependant, c'est bien à cause de notre sexualité que nous avons été discriminés, criminalisés et que nous le sommes encore. Pour moi, la sexualité reste un sujet central. Tout a commencé à Montréal et à Toronto pour votre militantisme. De quoi vous souvenez-vous de vos premiers pas comme militant, militante, et de ce que cela représente encore pour vous ces années-là? Solange Muzanganya. Je me souviens, comme si c'était hier, de la première fois où 3 personnes noires ont marché lors du défilé de la fierté en 2005. L'événement avait lieu en même temps que Caribana, festival annuel célébrant la culture et les traditions des Caraïbes, à Toronto, et beaucoup étaient partis à Toronto et surtout ne voulaient pas s'associer à un défilé à Montréal. On s'est alors dit qu'il fallait que l'on marque l'histoire, et 3 personnes noires se sont mises sous la banderole Arc-en-ciel d'Afrique. Une grande première. Et lors du dernier défilé en 2024, j'y étais, et il y avait tellement de noirs qui marchaient, intégrés dans différents groupes qui défilaient ou sur les chars allégoriques, que je pouvais voir le chemin accompli par Arc-en-ciel d'Afrique et Massimadi. Je me suis dit alors, en les regardant, que je pourrais prendre ma retraite. J'étais tellement heureuse et fière. Carlos Idibuo. Pour moi, ce qui m'impressionne le plus quand je reviens à Montréal, c'est de voir les sourires s'afficher sur ceux et celles qui s'affichent aujourd'hui, qui s'acceptent et qui se reconnaissent dans une communauté. Ce n'est pas évident de s'accepter dans leur pays d'origine. Mais à Montréal, comme dans d'autres villes, il y a d'autres défis, les différences culturelles et toute la question de l'adaptation. Alors c'est important que ces personnes puissent rencontrer des personnes comme elles, parler de ce qu'elles sont sans faux fuyant, sans crainte, et le plus beau des cadeaux, c'est quand cela se termine par des sourires, de véritables sourires. C'est encore la plus belle récompense pour nous. En arrivant hier à l'aéroport, je repensais à tous ces sourires. Avez-vous de l'inquiétude face aux discours anti-LGBTQ qui se font entendre de plus en plus, pas seulement en Afrique, mais en Occident? Solange Muzanganya. Il y a un pessimisme qui se dessine. Depuis Stonewall, on a vu de très grandes avancées, de grands changements, comme une graine d'une révolution mondiale. Il y avait comme une progression. L'arrivée du VIH-Sida a un peu freiné cet élan. Il y avait des opposants, des homophobes, des transphobes, et l'on sentait qu'on perdait des batailles. Cependant, depuis quelques années, il y a un retour de l'extrême droite, des fondamentalistes, avec en Afrique un discours sur les valeurs africaines, comme si l'homosexualité ou encore l'hétérosexualité étaient des valeurs. Je les appelle « wobiphobes ». Wobi est un terme ivoirien désignant l'homosexualité. C'est inquiétant de voir ces discours tenus aussi en Europe et en Amérique du Nord. Comme je dis toujours, on doit casser des œufs pour faire une omelette, mais là on casse des œufs et l'omelette ne prend absolument pas. Si le mot « retraite » revient souvent, elle est loin d'avoir sonné pour les deux activistes. Carlos Idibuo. Pas une retraite, peut-être une reconversion parce qu'au bout de 25 ans, nous sommes un peu épuisés. Nous avons fait beaucoup de choses, mais dans des conditions difficiles. Nous avons été souvent confrontés à des situations difficiles émotionnellement et nous sommes allés chercher au plus profond de nous-mêmes pour rebondir, impliquant des années de sacrifices, sacrifices de nos familles, parfois dans le silence, sacrifier aussi une partie de nos vies privées. Mais on est content parce qu'il y a une relève avec beaucoup de jeunes qui s'impliquent en Afrique. La situation nous rend tristes, bien sûr, mais peut-être qu'à tout malheur, quelque chose est bon. Bien sûr, comme le dit Solange, il y a le anti-wobi, mais je pense que la population évolue, change. Nombreux aujourd'hui sont ceux qui se questionnent, et on l'a vu lors de la dernière crise en Côte d'Ivoire. Les gens se rendent compte que de parler d'homosexualité ne doit pas masquer d'autres enjeux sociaux. Ils finissent par s'en rendre compte. Et pourtant, la Côte d'Ivoire était considérée comme une oasis en Afrique pour les LGBTQ, mais on peut aujourd'hui y mettre un point d'interrogation. Que ressentez-vous en recevant ce prix de la Fondation Émergence? Solange Muzanganya. Une très agréable surprise, d'autant plus qu'il est remis à nous deux. Carlos et moi avons le même âge et nous avons commencé en même temps. Carlos, c'est bien sûr un collaborateur, mais c'est bien plus. C'est un ami, c'est un frère, c'est un mari. Alors que nous soyons tous deux récompensés ensemble pour un travail commun, c'est une grande joie. Carlos Idibuo. Pour moi, beaucoup plus qu'une simple surprise. Beaucoup d'émotions sont remontées. Cela me rappelait comment Solange et moi, nous nous étions rencontrés. Je me suis souvenu de mes premières années d'implication comme militant en Côte d'Ivoire, alors que je ne savais pas du tout m'y retrouver dans ce monde de fou qu'était le militantisme. Et de me retrouver comme personne engagée aussi longtemps pour la promotion des droits LGBTQ en Afrique ici et maintenant à travers le monde. Solange a déjà reçu des prix, mais moi je les ai toujours refusés. Non pas par snobisme, mais par peur d'être corrompu dans le sens où ça peut gonfler la tête. Nous acceptons humblement ce prix. C'est une marque de reconnaissance importante, pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui ont été nos mentors, qui nous ont inspirés et qui malheureusement ne sont plus là. L'annonce de ce prix est venue nous chercher au plus profond de nous. C'était Solange Muzangagna et Carlos Idibuo, des inspirations et des modèles. Une entrevue réalisée par Denis Daniel Boulay, parue le 28 octobre 2024 dans le magazine Fugue.
Pourquoi on déteste novembre et comment en revenir? Un texte de Sylvia Galipo, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse. Notre aversion pour ce 11e mois de l'année semble parfaitement justifiée. Tous les experts interrogés s'entendent, philosophes, psychologues et surtout météorologues. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille s'y résigner. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas en termes de précipitations que novembre se démarque, mais vraiment du côté de la température et sur le plan des heures d'ensoleillement. Fait valoir Jean-Philippe Bégin, météorologue à Environnement Canada. Entre le début et la fin du mois, la température plonge, dit-il. On perd 8 degrés le jour. De 9 degrés Celsius, comme température maximale, le premier, on tombe en effet à un maigre degré comme maximum, en moyenne, à la fin du mois. Même constat du côté de la durée de nos journées. C'est la chute libre. Le 1er novembre, la journée dure 10h06 minutes. Le 30, 8h58 minutes. Jean-Philippe Bégin rappelle que, alors qu'en juin, les journées durent près de 15 heures en moyenne. C'est majeur comme différence. Environnement Canada ne calcule plus les heures d'ensoleillement ou l'insolation effective, dans le jargon, pour des raisons techniques depuis 10 ans. N'empêche qu'à nouveau, les chiffres, aussi datés soient-ils, parlent d'eux-mêmes. On estimait aux dernières observations à 84 heures l'ensoleillement du mois de novembre comparativement à 240 heures en juin et 271 en juillet. Non seulement les journées sont plus courtes, mais en prime, elles sont plus couvertes, bref, moins ensoleillées. C'est une méchante différence. Dit autrement, il commence à faire froid, et désagréablement froid, commente à son tour le professeur Jean Grondin du département de philosophie de l'Université de Montréal. La nature se dépouille et donne presque le sentiment de renoncer à sa vitalité. Il est normal que notre morale s'en ressente un peu. Comble de misère, ajoute-t-il, c'est aussi en novembre que nous changeons d'heure pour retourner à l'heure normale, qui nous paraît tout, sauf normal, parce que du jour au lendemain, il fait noir à partir de 16h30. Chercher de la lumière. Certes, tout cela est indéniable. Mais faut-il pour autant baisser les bras? Prendre notre mal en patience? En attendant que ce satané mois des morts finisse par finir? Peut-être n'est-ce pas là non plus la stratégie la plus gagnante qui soit. Si on mise sur tous les aspects négatifs, on va ressentir le mois de novembre de façon plus lourde, signale la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier. Si on est capable, ajoute-t-elle, de se concentrer sur ce qu'il y a de plus agréable, ça va influencer comment on va vivre nos journées. Entendons-nous. Oui, il y a moins d'ensoleillement, moins de chaleur, et cela a une incidence sur notre humeur, confirme-t-elle. Et certaines personnes souffrent aussi très réellement de dépression saisonnière. Dans ces cas précis, chercher de la lumière, au sens métaphorique du terme, en novembre, ne suffira évidemment pas. Mais il y a des petits trucs qui peuvent faire du bien à tout le monde, avance la psychologue. Marcher dans la nature, ralentir le rythme, cuisiner en famille, en profiter pour se coucher plus tôt, etc. Éloge de la lenteur. À noter qu'il ne s'agit pas ici de tomber dans la pensée positive à tout prix. Non, on n'est pas là-dedans. On essaye plutôt de redécouvrir des aspects qu'on a tendance à ne plus voir ou qu'on n'a jamais vus. Il s'agit de chercher à redéfinir le mois de novembre, chercher ce qu'il a à m'offrir, dans un objectif de bien-être, poursuit Geneviève Beaulieu-Pelletier. Une idée entre mille? Célébrer la lenteur du mois de novembre, avance-t-elle. Oui, c'est agréable d'être dans plein d'activités. On se sent vivant, mais c'est aussi très énergivore. Là, en novembre, on est un peu plus en mode hibernation. Alors, on fait nos réserves. Parce que novembre est effectivement un mois où on a du temps. Fait rarissime le reste de l'année, inutile de vous le rappeler. On en profite. Ennuyons-nous un peu, propose-t-elle. Goûtons au temps qui n'est habité par rien d'officiel. Ces moments de pause sont essentiels. Ça a l'air futile, dit comme ça, et pourtant non, conclut la psychologue. Toutes les touches de plaisir, aussi petites soient-elles, peuvent faire toute une différence. Qu'est-ce qu'on perd à essayer? C'était « Pourquoi on déteste novembre et comment en revenir? » Un texte de Sylvia Galipeau, paru le 3 novembre 2024 dans La Presse.
La finance québécoise s'outille pour mesurer son empreinte sur la biodiversité. Un texte de Clémence Pavic, paru le 25 octobre 2024 dans Le Devoir. Cette entreprise nuit-elle à une espèce en danger? Cette usine menace-t-elle un habitat protégé? Pour permettre de prendre des décisions d'investissement plus éclairées, la Caisse de dépôt et placement du Québec, CDPQ, et Fonds d'action se sont associés à des organisations de la société civile pour élaborer de nouveaux indicateurs de biodiversité pour le Québec, dévoilés à l'occasion de la COP16. Comme investisseur, on a l'habitude de regarder les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance, ESG, avant de prendre des décisions, mais pour les impacts sur la biodiversité, c'est assez compliqué, explique Geneviève Morin, PDG de Fonds d'action. Au total, 9 indicateurs de biodiversité ont été élaborés par Fonds d'action, la CDPQ, ainsi que l'Organisme pour la protection de la nature SNAP Québec et les chercheurs du réseau Biodiversité Québec. Ces indicateurs permettent de mesurer l'effet de l'implantation d'un projet, qu'il soit industriel, commercial ou encore immobilier, sur son environnement. Ils étudient entre autres les conséquences pour les espèces à statut, la perte d'habitat ou encore la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Ce sont des indicateurs spécifiques pour le Québec. La tonne de gaz à effet de serre à Montréal, c'est la même partout, mais pour ce qui est de la biodiversité, elle est très différente d'une région à l'autre, souligne Mme Morin sur l'importance de créer un cadre spécifique à la réalité québécoise. Qu'est-ce que la COP16? Il s'agit de la 16e édition de la Conférence internationale sur la biodiversité organisée par les Nations unies. Elle s'est déroulée du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Lors de la 15e édition, qui a eu lieu à Montréal en 2022, les États ont conclu une entente pour protéger 30 % des terres et des océans d'ici 2030. Il s'agit de l'équivalent pour la biodiversité de l'accord de Paris qui porte quant à lui sur le climat. Un cadre rigoureux. Ça fait déjà plusieurs années qu'on s'intéresse à la biodiversité. On n'a pas attendu les indicateurs pour le faire. Ce sont des questions qu'on rencontre de plus en plus régulièrement, souligne Bertrand Millot, chef de l'investissement durable à la CDPQ. La mise au point de ces indicateurs sert toutefois à régulariser ce processus de réflexion déjà amorcé. Jusque-là, on faisait cette analyse, sauf que, comme n'importe quel humain, il pouvait arriver d'oublier certaines choses. Là maintenant, on a un cadre rigoureux qui permet de faire une analyse en profondeur, explique M. Millot. Diego Kremer, directeur Finance et biodiversité chez Snap Québec, rappelle que ces indicateurs ne prendront pas la décision à la place des investisseurs, mais ils serviront d'outils d'aide à la décision. Pour le moment, les indicateurs prennent la forme de formules mathématiques et de séries de questions dans un cahier méthodologique d'une trentaine de pages. Or, dès l'année prochaine, une plateforme en ligne automatisée pourrait être rendue accessible aux investisseurs et aux entreprises, avance M. Kremer. Des indicateurs à améliorer. Les indicateurs devront par ailleurs continuer à être améliorés, reconnaît M. Kremer. Entre autres, parce qu'ils analysent seulement les effets d'un projet dans son milieu d'implantation directe. Ils ne tiennent pas compte de tous les enjeux au fil de la chaîne d'approvisionnement. Par exemple, dans le rapport de présentation des indicateurs, on cite l'exemple de Café Williams, un torréfacteur bio et équitable établi à Sherbrooke. Dans ce cas-ci, les indicateurs ne permettent pas de mesurer l'impact de la récolte des grains de café sur la biodiversité locale du lieu d'approvisionnement. Pour le moment, nos indicateurs permettent seulement de regarder les impacts au Québec, explique Geneviève Morin de Fonds d'Action. M. Kremer estime que l'intégration des effets de la chaîne d'approvisionnement constitue un défi important auquel il faudra répondre. C'est particulièrement important surtout ici au Québec, où on a une extraction importante des minéraux et des matières ligneuses, illustre-t-il. C'était La finance québécoise s'outille pour mesurer son empreinte sur la biodiversité, un texte de Clémence Pavic, paru le 25 octobre 2024 dans Le Devoir.